Et voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
L'alerte rouge a été levée en Loire-Atlantique, mais des trombes d'eau se sont abattues sur Nantes. 100 000 litres au mètre carré.
Non, 100 litres, ça, c'est déjà
oui,
beaucoup.
Oui, c'est déjà beaucoup. 100 litres au mètre carré en quelques heures. En Vendée, l'eau est montée parfois de 80 cm. Et un épisode Cévenol démarre dans le sud-est. On va faire un point complet dans un instant après les autres titres, Christelle.
Même de plus en plus seul, il repart en campagne. Nicolas Dupont-Aignan a choisi le cirque d'hiver pour lancer son Barnum. Pas de PR ni de prolongation de la centrale nucléaire de Bugey. Les Antilles se mobilisent aujourd'hui. Et puis à la fin de ce journal, Jean-Pierre Blimaud nous mettra sur la ligne de départ du Paris-Roubaix. Glissade, suspense et boue garantie dans le journal des sports.
Et puis l'invité dans 20 minutes sur France Inter, ce sera la sociologue Anne Muxel pour son dernier livre, L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime.
France Inter. 100 litres d'eau au mètre carré du côté de Nantes en quelques heures, c'est un record. Si l'alerte rouge a été levée il y a 2 heures par Météo France, il continue quand même de pleuvoir sur une bonne partie du département. Jean-Yves Billon est le maire de Beauvoir-sur-Mer en Vendée, à côté de Noirmoutier. Là-bas, l'eau est montée par endroits jusqu'à 80 cm.
Donc, on ne pouvait pas s'évacuer. Donc, j'ai appelé des éclusiers. Donc, on a pu délester du canal de la Taillée dans le Dain. Et ensuite, quand la marée a descendu, a baissé. On a appelé l'éclusier du port du Bec qui a ouvert le port du Bec pour faire évacuer la mer. Et ça a débordé dans quelques habitations. Et après, les pompiers sont venus avec des équipes nautiques pour évacuer les gens qui devaient être évacués. Hein. On a évacué peu de personnes, en fait 5. Et maintenant, c'est les pompiers qui sont en cours d'intervention pour nettoyer les maisons, aspirer et puis enlever l'eau qui a pu rentrer dans les habitations.
Le maire de Beauvoir-sur-Mer, joint par France Bleu, Loire-Océan, par Florian Cazola. 22 départements sont encore en vigilance orange, 15 dans le quart nord-ouest, les autres dans le sud-ouest et le centre-est. À l'autre bout de la France, un épisode Cévenol est en cours. Vigilance orange aux orages en Lozère, Ardèche et dans le Gard. 190 pompiers du Gard sont mobilisés jusqu'à demain matin pour y faire face. 4 pompiers supplémentaires appelés dans chaque centre de secours. Des unités de sauvetage en eau vive sont prépositionnées. Des unités de génie pour ouvrir si besoin des routes, un gros dispositif. Mieux vaut prévenir, explique le commandant William Borelli.
Ce dispositif, en fait, que nous avons mis aujourd'hui, il répond surtout au retour d'expérience que nous avons pu faire des événements passés, climatiques, météorologiques, et puis surtout ces épisodes Cévenol. On met la même stratégie, une stratégie identique à celle des feux de forêt, où on prépositionne des moyens avec du personnel pour pouvoir réduire nos délais d'intervention. Dans ces phénomènes météorologiques, souvent des secteurs sont coupés du reste du monde pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ce prépositionnement nous permet d'anticiper, de garantir qu'on puisse avoir des secours quoi qu'il se passe. À l'instar de ce qu'avait fait un de nos groupes de sauveteurs en eau vive à Saint-Martin-Visubi lors de l'événement que nous connaissons tous et par lequel ils avaient été isolés pendant 24 heures, mais malgré tout avaient pu faire de nombreux sauvetages.
Oui, l'événement dont parle le commandant Borelli, ce sont évidemment les intempéries qui ont frappé il y a un an tout juste l'arrière-pays niçois, faisant 10 morts et 8 disparus. William Borelli était au micro France Bleu de Philippe Thomin.
La page politique, c'est sa 3e candidature à la présidentielle.
Comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan rempile et lance sa campagne tout à l'heure au Cirque d'hiver à Paris, mais le souverainiste qui avait conclu un accord de gouvernement s'en souvient avec elle en 2017, entre les deux tours de l'élection, est plus seul que jamais, mais pas question pour autant de se rallier, Élodie Forêt.
En juin dernier, Nicolas Dupont-Aignan rencontre Éric Zemmour. Aux polémistes qui le sondent pour un potentiel ralliement, le président de Debout la France tient tête, aujourd'hui à 2% dans les sondages. Il n'est toujours pas question de renoncer.
Je ne me déterminerai jamais sur des pseudo-sondages, je ne me déterminerai jamais sur des campagnes de presse et je ne vois pas pourquoi je devrais me rallier à quelqu'un dont je ne connais ni le programme ni la certitude de candidature. Moi, je suis gaulliste, je m'adresse à tous les Français et je leur dis surtout, si vous vous mobilisez, vous pouvez bouleverser le jeu politique.
Nicolas Dupont-Aignan, toujours persuadé de son destin présidentiel malgré les déconvenues des vagues de départ depuis 2017. Certains soutiennent désormais Marine Le Pen, d'autres Éric Zemmour, comme la figure des Gilets jaunes Benjamin Cauchy ou l'éphémère ex-président de Debout les Jeunes, Marian de Gueffier.
Il y a un déclin au niveau des sondages, mais outre cela, il y a un déclin financier, il y a un déclin au niveau des partisans. Aux universités d'été, tout récemment au mois de juillet, il y avait 8 jeunes. 8 jeunes, vous vous rendez compte?
Une bataille de chiffres entre dissidents et Dupont-Aignan lui revendique plus de 12 000 adhérents à jour et un regain d'intérêt dû à ses positions anti-pass. La vérité, siffle un ancien partisan, c'est qu'il se marginalise. Tout ce qu'il peut espérer, c'est peser assez pour se vendre au LR contre un soutien aux législatives.
Chez les écologistes, Yannick Jadot présente son programme dans le journal du dimanche aujourd'hui. Dès mon premier jour, explique-t-il, j'engagerai la sortie de l'élevage industriel. Il promet 50 milliards d'euros d'investissement par an pour le logement, les services publics et promet de créer 1,5 million d'emplois. Il souhaite toujours sortir du nucléaire et considère que les EPR sont des gabegies, ces réacteurs de nouvelle génération, des gabegies absolues. À Bugey, justement, dans l'Ain, une manifestation aura lieu en début d'après-midi face à la plus vieille centrale de France encore en fonctionnement et qui pourrait jouer les prolongations. Mathilde Imberti a rencontré à Vulba des riverains et des militants.
Ils habitent respectivement à 12 et 5 kilomètres de la centrale nucléaire. Mais pour Madeleine Chattard-Lécuillier et Alain Cuny de l'association Sortir du nucléaire Bugey, l'enjeu dépasse leur environnement tout proche.
Il y a effectivement beaucoup d'argent qui arrive dans les communes. Il y a aussi des emplois. Est-ce que c'est une raison suffisante pour prendre un risque pour une population qui est évaluée à 3 millions d'habitants en cas de problème à Bugey?
Les réacteurs actuels ont plus de 40 ans de fonctionnement, 300 et quelques défauts, soit de conception, soit dû à l'usure, soit etc. Donc plus elle vieillit, plus elle devient dangereuse.
La volonté d'EDF de construire de nouveaux réacteurs EPR une fois que celui de Flamanville sera enfin mis en route a relancé leur combat.
Ce qui est prévu, c'est que deux EPR seraient construits soit ici, soit au Tricastin. C'est de nous faire repartir pour le nucléaire pour 70 ans. Nous sommes très inquiets parce que les élus qui veulent à tout prix garder le nucléaire font le forcing pour attirer des EPR.
La dernière grande manifestation au Bugey remonte à 2011. C'était juste après Fukushima. 10 ans plus tard, ils s'attendent ce dimanche à être rejoint par des antinucléaires de toute la France et de la Suisse voisine, également par des élus insoumis et écologistes, afin aussi que la question du nucléaire s'invite davantage dans les débats.
On évoque beaucoup l'inflation galopante en ce moment sur les prix de l'énergie, mais ce n'est pas le seul secteur où les tarifs s'affolent et menacent notre pouvoir d'achat. À cause de la pandémie, le prix de la pâte à papier, par exemple, a bondi de 60% en un an. Alors on le retrouve bien sûr sur les étiquettes pour les cahiers, les journaux, les livres, les cartons. Certains craignent même des pénuries à suivre. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Pénurie, franchement, on n'y est pas encore.
La question de la pénurie ne se pose pas à ce stade. C'est ce que précise tout de suite le spécialiste des matières premières Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine. En revanche, les prix mondiaux de la pâte à papier, qui est cotée, n'ont jamais été aussi hauts, entre 1100 et 1200 euros la tonne, contre 725 il y a un an. Pendant la crise, les industries se sont arrêtées ou ont tourné au ralenti. En sortie de crise, elles n'ont pas redémarré assez vite pour faire face à l'explosion de la demande, en particulier chinoise, qui représente 30% de la demande mondiale. Moins d'offres, plus de demandes. Les prix grimpent, renchéris encore par les coûts de l'énergie, eux aussi, en hausse.
Alors, l'offre et la demande, soit, mais ce n'est pas le seul élément.
On utilise aussi du vieux papier, pas seulement de la pâte à papier, pour refaire du papier, c'est le recyclage. Mais là, pendant la crise, c'est la collecte qui a été passablement perturbée. Et puis le papier n'était plus à la mode. Avec la baisse de consommation avant la crise du Covid, de très nombreuses usines de fabrication ont mis la clé sous la porte. Enfin, un phénomène qui, lui, est à la mode, joue aussi beaucoup, l'explosion de la livraison et donc de l'emballage. La pâte à papier disponible est de plus en plus utilisée pour fabriquer ces cartons, qui remplace désormais le plastique.
Merci Manuel Ruffez. Il envisageait de faire un massacre. Un jeune homme de 19 ans, originaire de Seine-Maritime, a été arrêté, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Fasciné par le nazisme et l'ultraviolence, il voulait commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée, comme à Columbine, disait-il, ainsi que dans une mosquée. Date prévue, 20 avril 2022, à 4 jours du second tour d'élection présidentielle, une date qui est aussi celle de la naissance d'Hitler. Un coup de vent sur les relations diplomatique entre l'Algérie et la France. L'Algérie rappelle immédiatement son ambassadeur pour consultation. Elle dénonce des déclarations faites par Emmanuel Macron mercredi dernier. Il recevait à l'Élysée des descendants des protagonistes de la guerre d'Algérie. D'après le journal Le Monde, le président aurait expliqué que l'Algérie s'est construite, je cite, sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. L'Algérie avait déjà protesté la semaine dernière après la décision de la France de réduire de moitié les visas accordés à ses ressortissants. Un concert entre douleur et résilience. Le groupe Eagles of Death Metal se produira à Paris, à l'Olympia, le 26 avril prochain, alors que le procès des attentats du 13 novembre ne sera toujours pas achevé. Les places sont en vente depuis 3 jours. Et pour les rescapés du Bataclan, comme Sophie, qui a pris 2 balles dans les jambes le soir de l'attaque, c'est l'occasion de tourner définitivement la page. Thibault Lefèvre.
Sophie a longtemps hésité avant d'acheter sa place.
J'ai changé d'avis
à peu près 15 fois en me disant non, j'y vais pas, bon, bah, allez, si j'y vais, non, j'y vais pas, allez, si j'y vais.
Et puis, poussée par une amie, elle aussi, à rescapée du Bataclan,
je me suis dit, allez, je prends cette place.
Elle s'est lancée.
Le drame a commencé à un concert des Eagles of Death Metal, et si on peut tourner cette page avec eux aussi, c'est hautement plus symbolique parce que voilà, ils reviennent à Paris, ils reviennent sur la fin du procès. Donc, le procès, c'est un peu l'étape de fin, en fait, de tout ça, puisqu'après, il n'y aura plus rien. Ils auront été normalement condamnés. La boucle sera bouclée, si on peut dire ça comme ça.
La dernière fois que la jeune maman a vu sur scène les Eagles of Death Metal, c'était il y a plus de 5 ans, à peine 3 mois après le Bataclan, et c'était déjà à l'Olympia.
C'est pas le même contexte. Déjà, j'ai plus de béquilles, je peux marcher, donc c'est déjà un gros progrès. Après, au niveau de l'état d'esprit, je pense que j'y vais toujours avec cette même peur. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis 6 ans. J'y vais toujours en me disant, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'y vais pour mourir? Est-ce que je vais m'en sortir vivante? Est-ce qu'on va se refaire attaquer? Donc, il y a toujours les mêmes questions qui restent.
Des questions que Sophie partagera avec d'autres rescapés. Ils sont à sa connaissance déjà une dizaine à avoir pris leur place.
La douleur et le courage de Sophie, recueillie par Thibault Lefèvre.
On passe au sport.
Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Christelle.
2 ans et demi après la dernière édition, Paris-Roubaix reprend ses droits aujourd'hui.
Après 2 annulations et un report d'avril à octobre, la course que l'on appelle la Reine des Classiques s'annonce épique aujourd'hui. Et pour la première fois depuis 19 ans, la pluie est annoncée le long des 257 km du tracé, qui comprend aussi 17 secteurs pavés. Les coureurs l'appréhendent, même ceux qui ont déjà gagné Paris-Roubaix, comme le Belge Philippe Gilbert, dernier vainqueur en 2019.
On a vu que c'est très 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 glissant, donc ça risque d'être vraiment chaotique. J'arrive même pas à imaginer comment on peut faire sans tomber ou sans mettre pied à terre ou sans avoir de problème. Mais bon, j'ai déjà couru sous la neige, sous 45 degrés, sous des vents à 60 km/h et plus, mais dans de la boue comme ça, jamais, donc ce serait une première. Même les voitures, ils vont être très loin, ils vont plus rien voir non plus parce qu'ils vont avoir de la boue partout sur la voiture, donc même pour les directeurs sportifs, ça va être très fatigant et ouais, ça va être vraiment la galère à tous les échelons.
Voilà, donc Philippe Gilbert au micro de Stéphane Barbereau, départ de Paris-Roubaix à 11h15 à Compiègne, arrivé bien sûr au Vélodrome de Roubaix vers 17h. Et hier, pour la toute première édition féminine, c'est la Britannique Lizzie Deignan qui s'est imposée.
Le Paris Saint-Germain serait-il devenu un produit de luxe? C'est la question du jour.
Alors depuis le début de la saison, en tout cas, les déplacements du PSG de Lionel Messi font flamber le prix des places dans les stades. Il y a un mois à Brest, le montant des billets a rapidement atteint 80 € et ça continue jusqu'à 170 € pour le match du jour, ce sera à Rennes. Rennes, où certains supporters n'ont pas caché leur mécontentement face aux tarifs pratiqués par leur club.
À Rennes aussi, où l'on craint des débordements dans les tribunes.
Oui, on le sait, en France, le contexte est tendu depuis le début de saison. Alors cette fois, le déplacement de 650 supporters parisiens a été autorisé sous condition. Le dispositif de sécurité est maximal, mais le vol récent d'une banderole rennaise avec l'agression d'un jeune supporter, eh bien, cela fait craindre une montée d'adrénaline dans les tribunes. Et l'entraîneur rennais Bruno Genesio ne comprend pas pourquoi, dans un tel contexte, le déplacement des supporters parisiens a été autorisé.
Compte tenu du contexte général du football français actuellement dans ce domaine-là et de ce qui se passe ou ce qui se serait passé entre les Parisiens et les Rennais, je suis un peu surpris qu'on ait autorisé les Parisiens à venir pour ce match. Ce que j'espère, c'est que tout se passe bien. Ça doit être un grand match. Il ne faudrait pas que ça soit terni par des incidents comme on a pu en vivre déjà dans d'autres stades.
Voilà, Rennes-PSG 13h, mais ce soir 20h45, un autre match qui sent la poudre Saint-Étienne-Lyon à Geoffroy Guichard. Mais là, le déplacement des supporters lyonnais a été interdit.
Un coup dur aussi pour l'équipe de France de foot féminin et pour l'Olympique lyonnais.
La saison d'Amel Majri est terminée alors que l'OL doit jouer un match de Ligue des Champions mardi. Vendredi, la milieu internationale a été victime d'une grave blessure à un genou lors de la victoire des Lyonnaises contre Bordeaux. Cela se passait en Gironde, Cédric Guillou.
Le verdict médical est sans appel et la saison d'Amel Majri d'ores et déjà terminée. La joueuse de 28 ans s'est gravement blessée au genou après s'être mal réceptionnée à la suite d'un duel aérien lors du match Bordeaux-Lyon vendredi soir. Elle souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche. Amel Majri subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Sélectionnée à 66 reprises en équipe de France, Elle va manquer à l'Olympique Lyonnais, mais aussi aux Bleus de Corinne Diacre, qui comptait sur elle pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde féminine et pour l'Euro féminin qui est prévu en juillet prochain.
Cédric Guillou, alors sachez que les Lyonnaises, notamment sans Amel Majri, eh bien se déplaceront à Göteborg mardi. Ce sera pour ce match de Ligue des Champions qui débute sa phase de poule.
Et voilà, c'est dit. Merci Jean-Pierre.
Et Jean-Pierre Blimeau dans le journal de Christelle Rebière.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski, on fait un point sur les intempéries dans le nord-ouest de la France. Le pic est bien passé, hein ?
Amélioration progressive en cours de matinée sur le front des précipitations dans le quart nord-ouest. La Loire-Atlantique, où il est tombé 100 litres au mètre carré la nuit dernière, repasse en vigilance orange. Le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne sont maintenant en jaune. En fait, sont maintenus en orange, pluie jusqu'en milieu de matinée, 15 départements entre les Pays de la Loire, le bassin parisien, l'Orne, la Haute-Normandie et l'Oise. Graduellement, au milieu de journée, ce quart nord-ouest du pays va retrouver un temps variable et plus sec. Par contre, la perturbation se décale aujourd'hui le long des Pyrénées et sur les régions de la moitié est avec trois types de vigilance à la clé. D'abord pour le vent à plus de 100 km à l'heure sur les départements de la Loire et du Rhône. Ensuite pour les très fortes pluies cévenoles mêlées d'orages cet après-midi sur le Gard, la Lozère et l'Ardèche, également en orange. Et globalement, un temps pluvieux aujourd'hui entre la vallée du Rhône et le Grand Est. Enfin, les Bouches-du-Rhône et le Var sont également en orange pour les fortes pluies d'orage prévues à partir de la soirée.
Jean-Michel Golinski, Météo France.